Bonjour à toutes et à tous. Le secrétaire général va à présent vous présenter un exposé suite aux séances de travail de cette réunion des ministres des Affaires étrangères. Bonjour à tous. Nous venons de finir une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. L'ambiance autour de la table est excellente et nous avons bien avancé dans la préparation de la réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra le 25 mai, ici même, au siège de l'Alliance. Lors de cette réunion extraordinaire, nous nous concentrerons sur deux thématiques. Tout d'abord, nous débattrons des perspectives de renforcement du lien transatlantique par le biais d'un partage équitable du fardeau. Nous sommes tous d'accord pour mettre en œuvre les accords pris en 2014 à propos des investissements de défense. Nous avons déjà réalisé des progrès avec une augmentation de 10 milliards de dollars des dépenses de défense des alliés européens et du Canada l'an dernier. Mais nous devons maintenir l'élan. Nous envisageons, entre autres, des plans nationaux, de réalisation de nos engagements. Ces plans nationaux pourraient comporter trois éléments. Tout d'abord, des indications quant à la manière pour les pays de respecter l'engagement de 2014 en matière d'investissement de défense. Ensuite, comment investir les moyens supplémentaires dans les capacités militaires dont nous avons besoin. Et enfin, comment les pays prévoient de contribuer aux opérations, missions et autres engagements de l'Alliance. Il s'agit donc de moyens financiers, de liquidités, de capacités et d'engagement envers des déploiements. Et les trois axes sont importants. Ensuite, nous avons discuté de la réaction de l'OTAN face au terrorisme. L'attentat de la semaine dernière à Londres a fait des morts et des blessés de 11 nationalités différentes. C'est l'un des nombreux attentats auxquels les alliés ont été confrontés ces derniers mois. Une nouvelle fois, il s'agissait d'une attaque contre nous tous et aussi d'un rappel à l'ordre. Nous devons intensifier nos efforts. L'OTAN, à cet égard, aide à stabiliser son voisinage en Afghanistan, dans les Balkans, en mer Égée et en appui de nos partenaires. Nous sommes également en train de mettre sur pied un pôle régional pour le Sud à Naples. Ceci dit, l'OTAN possède un potentiel inexploité, important. L'un de nos principaux outils de lutte contre le terrorisme consiste en l'entraînement des forces locales, les aider à renforcer leurs propres capacités, une lutte contre le terrorisme et aide à le contenir. En Irak, nous aidons les forces locales à mieux lutter contre Daesh, y compris par le biais d'un entraînement à la lutte contre les engins explosifs de circonstance, ou IED. Ces derniers jours, l'OTAN a remis au ministre irakien de l'Intérieur 160 kits de lutte contre les IED. Ces équipements devraient aider à sauver des vies. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'intensifier nos efforts en Irak même. Cela prendra, entre autres, la forme d'un stage de métier de militaire visant à former de nouveaux auxiliaires médicaux et d'une aide à la maintenance de chars et de véhicules blindés de combat. Nous pouvons fournir une expertise tout à fait tangible, susceptible de vraiment faire la différence. C'est bon pour la sécurité de l'Irak et c'est bon pour la sécurité de l'Alliance. Dans l'optique de la réunion extraordinaire de mai, nous étudierons également d'autres solutions, d'autres idées afin d'exploiter le potentiel de l'OTAN en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons également évalué la situation dans les Balkans occidentaux. Nous sommes convenus de maintenir notre présence, notre engagement et notre ciblage spécifique sur cette région essentielle à la sécurité européenne. Le Monténégro deviendra prochainement le 20e pays membre de notre alliance. Le Monténégro dispose d'ailleurs d'ores et déjà d'un siège à la table. Je salue la ratification du protocole d'adhésion du Monténégro par le Sénat des États-Unis cette semaine. L'accession du Monténégro à la famille de l'OTAN, la famille des nations démocratiques, membres de l'OTAN, contribuera à la stabilité de la région et de l'Europe dans son ensemble. J'espère que tous les pays auront finalisé la ratification du protocole d'adhésion d'ici le mois de juin. La haute représentante, Federica Mogherini, ainsi que les ministres finlandais et suédois se sont joints à nos discussions aujourd'hui portant sur une approche unie face à la Russie. Une défense et une dissuasion crédibles constituent une base solide pour notre dialogue avec la Russie et la réunion d'hier du Conseil OTAN-Russie a clairement démontré notre engagement au dialogue. Nous avons conclu cette réunion ministérielle par une réunion de la Commission OTAN-Ukraine. L'OTAN fournit un soutien politique et pratique fort à l'Ukraine par le biais de 6 fonds d'affectation spéciale actifs. Ce sont environ 35 millions d'euros qui ont été affectés à la formation et à l'entraînement et au conseil de plus de 2000 militaires et civils ukrainiens. Et aujourd'hui même, un centre de réhabilitation pour les militaires blessés ouvre ses portes à Kharkiv. Il est financé par le fonds d'affectation spéciale de l'OTAN pour la réhabilitation médicale. Plusieurs alliés ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre à disposition de l'Ukraine une aide spécifique suite aux explosions du dépôt d'armement et de munitions de Balaklia, ce qui démontre une nouvelle fois la solidarité de l'Alliance. Je serai à présent ravi de répondre à vos questions. La BBC, merci Monsieur le Secrétaire Général, Jonathan Mackinson. Vous dites que vous envisagez des plans nationaux. Je suppose que ce sont les Américains qui sont convaincus, ils ont besoin de calendriers, d'engagements sur papier que l'on peut amener les pays à suivre et à respecter. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un engagement ferme vis-à-vis de ces plans lors de la réunion extraordinaire de mai? Et puis, pour en venir à l'État islamique, après la chute de Mossoul, il est probable qu'il y ait un vide du pouvoir dans le nord du pays. Est-ce que vous pensez que l'OTAN aura un rôle à jouer dans la stabilisation de l'Irak après le conflit? Réponse du secrétaire général. Nous travaillons actuellement sur des plans nationaux. Il est un peu trop tôt pour préjuger ou présumer de la décision qui sera prise en mai, mais c'est une hypothèse qui est sur la table. Nous tentons de déterminer comment élaborer ces plans nationaux qui ont vocation à devenir des plans de mise en œuvre des accords pris et des engagements pris en 2014. Ces plans devraient aborder ces trois piliers dont j'ai parlé. Tout d'abord, la nécessité d'investir davantage dans la défense et d'œuvrer à la livraison des capacités dont nous avons besoin et enfin de préparer la contribution des alliés aux activités, missions et déploiements de l'OTAN. L'important, c'est que nous sommes tous d'accord sur l'importance des accords trouvés et des engagements pris en 2014. Arrêter les coupes claires, réinvestir dans la défense pour atteindre les 2% du PIB. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre cet engagement, puisqu'en 2015, la première année suivant l'engagement pris, les coupes claires se sont arrêtées dans les pays et on a même constaté une légère reprise des dépenses de défense. En 2016, cette reprise s'est confirmée, 3,8% en chiffre réel, soit environ 10 milliards de dollars. C'est la première fois depuis bien longtemps que l'on constate une reprise des dépenses et investissements de défense en Europe et au Canada. Plusieurs alliés sont d'ores et déjà en mesure d'annoncer qu'ils atteindraient l'objectif des 2% de dépenses de défense dès cette année. C'est le cas de la Roumanie, ce sera le cas de plusieurs pays baltes l'année prochaine et d'autres alliés suivent. Nous avançons donc dans cette voie. Sur l'Irak, l'OTAN entraîne déjà des officiers irakiens. Récemment encore, cela se faisait uniquement en Jordanie. Et c'est en train de se mettre en place en territoire irakien. Et nous allons intensifier nos efforts en Irak cette année, puisque un stage de formation de personnel paramédical militaire va être organisé et que nous allons aider l'Irak à assurer la maintenance et l'entretien de certains de ses chars et véhicules blindés de combat. Et nous verrons d'ici le mois de mai sur quoi nous pouvons encore nous mettre d'accord. Le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme, c'est de renforcer les capacités de défense, les institutions de défense, entraîner les forces locales. Merci. Le Washington Post pour une question. Zegmar Gabriel, ministre allemand des Affaires étrangères, a déclaré aujourd'hui que l'engagement de consacrer 2% du PIB à la défense était indicatif et que pour l'Allemagne, il serait totalement irréaliste de vouloir y parvenir. Est-ce que vous pensez que les États-Unis interprètent mal cet engagement pris en 2014 et comment pensez-vous pouvoir rapprocher les positions entre ces deux alliés? Tous les alliés comprennent la nécessité d'un partage équitable du fardeau. Tous les alliés respectent les engagements pris en 2014. L'Allemagne a commencé à renverser la tendance en matière de dépenses de défense, puisqu'après des années de baisse, les dépenses de défense sont reparties à la hausse en 2016 et d'autres augmentations sont à l'ordre du jour. L'Allemagne est donc engagée sur la bonne voie et cela fait la différence parce que l'économie allemande est bien entendu la plus grosse économie européenne. Et nous étudions actuellement les outils à mettre en place pour réaliser cet engagement. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons d'élaborer des plans nationaux individuels pour chacun des alliés. Ces plans nationaux seraient susceptibles de varier. Je ne pense pas qu'on mettra en place des plans strictement identiques pour tous les alliés, parce que certains ont déjà adopté une législation qui leur impose de consacrer 2% du PIB à la défense. Dans d'autres pays, ces engagements n'ont pas pris la forme d'une loi, mais d'accords pris par les parlements nationaux. Les modalités pratiques sont à l'étude. L'important pour nous, c'est que tous les alliés acceptent la décision prise en 2014, la respectent et la mettent en œuvre. Cela a commencé et l'Allemagne elle-même a commencé à faire repartir à la hausse ses dépenses de défense. Question. Sur la lutte contre le terrorisme, le secrétaire d'État Tillerson a soulevé la question du domaine cyber et a indiqué que l'OTAN pourrait en faire davantage en matière de lutte contre le cyberterrorisme. Y a-t-il d'autres domaines sur lesquels vous envisagez de vous concentrer d'ici la réunion extraordinaire de mai afin de renforcer les efforts de l'OTAN en matière de lutte contre le terrorisme et en particulier en matière cyber?
Nous sommes en train de renforcer nos cyberdéfenses afin d'assurer notre protection par rapport à différents types d'attaques cyber et dans le cadre également de notre réaction et réponse au terrorisme. Nous avons donc renforcé nos cyberdéfenses et notre capacité à défendre des réseaux OTAN. Et nous les utilisons parfois, ces réseaux OTAN, dans les opérations contre le terrorisme. Et ainsi, pour protéger nos réseaux en Afghanistan, c'est quelque chose de crucial dans le cadre de notre opération en Afghanistan et de lutte contre le terrorisme. Alors, nous travaillons avec les pays pour les aider également à améliorer leurs propres réseaux cyber. Nous avons un centre d'excellence. Nous sommes en train de confirmer l'espace cyber comme domaine militaire. Nous avons air, terre, mer et cyber. Tout cela contribue à l'amélioration générale de la cyberdéfense qui est d'application également dans la lutte contre le terrorisme. Donc, nous examinons divers outils, y compris l'outil cyber, pour renforcer notre défense contre le terrorisme. Alors, nous avons plusieurs dossiers, le dossier cyber, mais les forces spéciales, d'opérations spéciales, nous avons un QG et il y a déjà un entraînement, des équipes d'entraînement mobiles. Nous allons voir si nous pouvons également intensifier nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. CBS, deuxième rangée, question. Elizabeth Palmer, CBS. Pouvez-vous, Monsieur le Secrétaire général, nous dire s'il y a des sanctions pour les pays qui ne réaliseraient pas leurs objectifs en mai? Alors, quelle serait votre réaction si tout le monde ne répondait pas à ces objectifs? Et deuxièmement, Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les discussions avec la Russie pour ce qui est du respect des accords de Minsk? La réunion que nous avons eue aujourd'hui était importante car elle a été la démonstration du lien transatlantique et également parce qu'il s'agissait d'une réunion qui faisait partie d'une série de réunions à travers laquelle la nouvelle administration américaine était venue en Europe et avait exprimé son engagement, son attachement au lien transatlantique. Mais les alliés européens et le Canada se sont également engagés à investir davantage pour la sécurité et plus pratiquement en dépenses en matière de défense, ce qui a été réitéré lors de la réunion d'aujourd'hui. Nous respectons tous, nous sommes d'accord sur le fait que nous devons nous attacher aux décisions prises en 2014. Donc ça, c'était un message important à l'issue de cette réunion. Et il ne s'agit pas uniquement d'engagement en parole, mais également d'actes concrets. Les pays ont augmenté 10 milliards en un an, en 2016. Donc c'était déjà un pas important dans la bonne direction. Maintenant, nous travaillons sur ce plan. Il est peut-être un peu prématuré de vous dire à quoi ils ressembleront. Nous n'avons pas non plus pris de décision vraiment définitive, mais c'est là une des propositions. Nous ne voulons pas changer la décision de 2014, mais élaborer un outil qui nous permettra d'honorer ces décisions. Donc le plan n'est pas là pour changer les décisions, mais simplement un outil pour mettre en œuvre cette décision de 2014. Aussi, mon message est que ces plans sont là pour nous aider, que la décision reste valable. Comment cela va s'articuler précisément, c'est un peu prématuré pour le dire. J'espère que nous arriverons à un accord en mai et que nous aurons là une décision sur les plans nationaux. Ah, et la deuxième partie de la question, la Russie, à Minsk, pardon. Nous avons une très bonne discussion sur la Russie car l'OTAN et les alliés se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle l'approche à double voie, c'est-à-dire d'une part une OTAN forte, une dissuasion et une défense forte pour pouvoir dialoguer et une plateforme de dialogue avec la Russie. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons mis en œuvre le renforcement le plus important de notre défense collective depuis la guerre froide. Nous avons déployé 4 groupements tactiques en Pologne et dans les pays baltes. Nous avons établi 8 nouveaux QG à l'est de l'Alliance et nous augmentons les dépenses en matière de défense. Donc nous sommes attachés à ce pilier d'issue de défense et parallèlement à cela, nous avons déjà convoqué 4 réunions de conseil OTAN Russie. Après 2 ans sans réunion, nous avons donc eu la première l'été dernier, un dialogue qui n'est pas aisé et très souvent très difficile. Hier, nous avons une réunion du Conseil OTAN Russie. L'Ukraine est à l'ordre du jour et la discussion a été difficile. Mais il est important d'être autour de la même table, d'avoir un échange de vues et de présenter nos arguments, surtout sur des questions où il y a des différends majeurs entre nous, comme l'Ukraine. Nous avons accompli quelques progrès en termes de transparence, prévisibilité, réduction de risques. Nous sommes en train maintenant d'envisager avec les experts des mesures qui nous permettront d'améliorer la sécurité aérienne dans la région de la mer Baltique. Une réunion s'est tenue récemment en Finlande et je salue le travail qui est mené pour assurer la sécurité aérienne dans cette région. Pour l'Ukraine, le message premier, c'est que la seule option pour un règlement pacifique, ce sont les accords de Minsk qui doivent commencer par le respect du cessez-le-feu. Et pour s'assurer que ce cessez-le-feu soit respecté, il faut que les observateurs, les missions d'observation de l'OSCE aient un accès sans entrave dans les zones de conflit pour qu'ils puissent observer le cessez-le-feu ainsi que le retrait des armes prévues. L'OTAN apporte son appui à l'Ukraine. Les alliés ont confirmé ce soutien. Nous restons solidaires de l'Ukraine. Nous voulons une Ukraine prospère, démocratique, souveraine. C'est pour le peuple ukrainien, mais cela également par rapport à nos valeurs de l'Alliance. Et nous voulons les protéger en Europe et en Ukraine. Question deuxième rangée. Der Spiegel. Le ministre Gabriel a dit qu'au cœur du conflit entre l'Allemagne et les États-Unis n'était pas uniquement la question des dépenses en matière de défense, mais que les idées de sécurité ne doivent pas uniquement se concentrer sur les dépenses en termes de défense. Et par exemple, il y a des dépenses pour les vagues de réfugiés. Cela doit être pris en considération parce que des réfugiés viennent de pays où les interventions militaires ont échoué. Y a-t-il un débat à l'Ukraine sur le fait de tenir compte justement des programmes d'aide humanitaire ou de développement lorsque l'on parle de la question du partage du fardeau sécuritaire à une échelle plus large? La diplomatie, l'aide aux programmes de développement, la coopération économique, ce sont là tous des volets importants pour favoriser la stabilisation de la région. Il nous faut avoir une palette d'outils à notre disposition. Il y a des objectifs internationaux, des lignes directrices pour 0,7% du PIB pour l'aide au développement. Et nous avons également notre engagement à l'OTAN de 2% du PIB pour la défense. Mais ce sont deux axes différents, chacun important. Et certains alliés, le Royaume-Uni, par l'occurrence, atteint les objectifs 0,7% du PIB pour l'aide au développement et les 2% pour la défense. Donc, cela prouve que les deux sont faisables. Et je salue cette exploits de Royaume-Uni, mais justement, le Royaume-Uni donc qui atteint les 0,7%, n'ont pas déduit qu'ils ne devaient donc pas dépenser 2% pour la défense. Donc, ils acceptent de dépenser 2% pour la défense au titre d'un accord à l'OTAN et 0,7% sur l'aide, comme cela a été accepté au niveau de l'Union européenne. Donc, j'ai dit, nous avons besoin d'une palette d'outils large pour stabiliser nos voisins. Donc, en Afghanistan, il y a des alliés OTAN, côté de l'Union européenne, des Nations unies, et finançant différents programmes de développement. C'est important. Mais pour mettre en œuvre ces programmes de développement, il faut la sécurité, la sûreté, l'entraînement, les conseils et l'assistance aux forces de sécurité afghanes. Donc, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas le développement ou la sécurité. C'est le développement et la sécurité et la base du développement, c'est qu'il y ait la paix et la sécurité qui règnent. Question à la première rangée. Quand pensez-vous que le Conseil Atlantique Nord se réunira en Ukraine? Est-ce que vous pouvez réagir sur ce qu'a dit le général Schiaparotti, sa dernière déclaration? Réponse. Nous sommes très reconnaissants d'avoir été invités en Ukraine, le Conseil, et nous allons examiner les possibilités de calendrier, mais je ne puis pas à ce jour vous donner une date. J'ai déjà personnellement été en Ukraine, beaucoup d'alliés ont déjà été en Ukraine, mais nous n'avons pas encore réussi à trouver une date pour une réunion du Conseil, mais nous allons chercher une date. Alors, l'OTAN et les alliés OTAN apportent un appui à l'Ukraine de diverses façons. Nous aidons l'Ukraine pour la mise en œuvre du programme de réforme, de la lutte contre la corruption. C'est un combat important. Un État moderne, une Ukraine moderne qui fonctionne, permettra d'avoir une Ukraine plus résiliente et moins vulnérable à toute ingérence extérieure. Donc, lorsque les alliés OTAN ou l'OTAN aident l'Ukraine dans son programme de réforme, de lutte contre la corruption, de modernisation du secteur sécuritaire, eh bien, cela renforce la sécurité de l'Ukraine. Nous entraînons, nous avons dans le cadre des éléments de commandement et de contrôle, à travers différents fonds d'affectation spéciale, mais l'OTAN, en tant qu'alliance, ne dispose pas d'armes, d'équipements. Ce sont les pays qui mettent ça à la disposition. Donc, ce n'est pas une décision qui appartient à l'OTAN quant à la donc, mise à disposition d'équipements militaires. Question. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez parlé de ces équipes d'entraînement mobile lorsque vous parlez des opérations spéciales, du QG des opérations spéciales. Est-ce que ces équipes mobiles seront utilisées pour du renforcement capacitaire ou plutôt un rôle en termes de stabilisation de l'Irak, voire de lutte contre le terrorisme, pourvu que les alliés donnent leur accord en mai. Alors, ces équipes mobiles sont déjà utilisées pour la formation des forces opérations spéciales dans différents pays dans notre proximité. En Tunisie, en Jordanie, nous formons ces forces, je pense également dans beaucoup d'autres pays de la région. Mais pas encore en Afghanistan, ou désolé, en Irak. Mais cette possibilité existe et c'est une des options que nous allons explorer dans notre volonté d'en faire davantage dans la lutte contre le terrorisme. Dernière question, Monsieur le Secrétaire général. Vous répétez régulièrement que l'Alliance est une union de valeurs et pour la démocratie. Alors, qu'avez-vous fait pour libérer nos collègues en Turquie? Parce que quasi 200 journalistes sont derrière les barreaux en Turquie. Réponse. L'OTAN est fondée sur des valeurs essentielles, la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles. Et j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises et j'accorde beaucoup d'importance à titre personnel à ces valeurs. Par ailleurs, il faut dire que la Turquie est l'allié qui est le plus touché par l'agitation, les tumultes en Irak et en Syrie. Ils ont fait l'objet de beaucoup d'attaques, d'une tentative de coup d'État où plusieurs centaines de personnes ont été tuées. Les bâtiments du Parlement ont été bombardés pendant que les parlementaires siégeaient à l'intérieur. Donc la Turquie a le droit à légitime défense et à poursuivre ceux qui étaient à l'origine de ce coup d'État. Mais cela doit évidemment se faire dans le respect de l'état de droit. C'est quelque chose que j'ai moi-même eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises et je me félicite des contacts établis entre le Conseil de l'Europe et de la Turquie, car c'est le Conseil de l'Europe qui est l'instance européenne dont fait partie la Turquie et qui dispose des outils et qui a la responsabilité de faire respecter la Convention des droits de l'homme. Donc je salue les contacts entre le Conseil de l'Europe et la Turquie pour discuter de cette question. Alors, dernière question, deuxième rangée. Une question, Monsieur le Président. Vous avez passé quelques heures avec le secrétaire d'État Tillerson. Alors, quelles sont les questions qui restent je n'ai pas très bien compris, dit le secrétaire général. Vous avez rencontré le secrétaire. Quelles sont les autres questions, les autres dossiers qui restent à régler? Réponse. Eh bien, lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons eu trois sessions où nous avons abordé beaucoup de questions. La principale question, lors de la première session, le partage du fardeau, des dépenses en matière de défense et unité transatlantique. Le secrétaire Tillerson, donc les États-Unis, ont exprimé leur engagement ferme au lien transatlantique, mais également leur position ferme de la part des États-Unis sur l'importance d'un partage équitable du fardeau. J'ajouterai, si vous permettez, qu'il est quand même important de rappeler qu'un partage équilibre ou des dépenses, une augmentation de la dépense en matière de défense, ce n'est pas uniquement quelque chose que nous faisons pour faire plaisir aux États-Unis. Il s'agit d'un investissement pour notre propre sécurité, pour garantir la sécurité de l'Europe. L'Europe qui est touchée par les tumultes en Afrique du Nord, en Irak, en Syrie, et une Russie est de plus en plus déterminée à établir son pouvoir. Donc voilà, ça c'était un des premiers messages. Lien transatlantique, partage du fardeau. Nous avons également vu ce que l'OTAN pouvait faire pour lutter contre le terrorisme, la prévention étant préférable au combat, et comment le faire pour plutôt former les forces locales plutôt que de déployer nos forces dans ces pays, les aider à lutter contre le terrorisme elles-mêmes, comme elles l'ont fait au cours de nombreuses années en Afghanistan. Ensuite, nous avons abordé la Russie et le message était là, je l'ai dit, défense, dialogue. avec nos partenaires, l'Union européenne, la Finlande, la Suède, et puis la réunion de la Commission OTAN Ukraine, où nous avons exprimé notre attachement à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà, je crois avoir fait le tour des réunions et également mettre fin à cette conférence de presse. Nous vous souhaitons à tous un bon week-end.